C'est une vie nouvelle en Christ. Frères, sœurs, ressentez-vous le besoin d'être encouragé, le besoin d'être exhorté, porté dans le quotidien de vos vies chrétiennes? Est-ce que vous en sentez le besoin? Oui, quelqu'un lève le doigt. Si la réponse est oui, alors les deux premiers chapitres de la première lettre de Pierre vont très certainement contribuer à répondre largement à vos attentes. Imaginez un instant, mais un instant seulement, ce que serait votre existence sans Dieu, sans sa présence, sans son amour, sans sa grâce. Moi, des fois, j'imagine et je me dis, mais ce serait affreux. Eh bien, nous vivrions à l'image de ce monde, un monde qui vit sans réelle espérance. Casimir de la Vigne écrivait « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort ». Voilà, ce serait ça notre espérance. Oui, je sais, c'est pas marrant, mais chaque pas nous amènerait à dire « Ben voilà, on va mourir, et puis à quoi ça sert de vivre ?» Alors oui, nous naissons, nous vivons, nous mourons, et tout est fini, terminé. Sans Dieu, nous serions sans protection et surtout sans réel but, errant au gré de nos vaines pensées. Ce serait triste, n'est-ce pas? Ce serait affreux. Heureusement pour nous, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ en a décidé autrement. Dans son amour immense, sans borne pour l'humanité perdue, il nous a extraits de ce monde sans avenir pour nous faire naître à une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Vous savez, les matins, lorsque j'ai un moment béni de partage spirituel avec le Seigneur, dans mon culte spirituel, eh bien, je lui exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Je lui dis « Merci Seigneur de m'avoir sorti de la boue dans laquelle je végétais. Merci de m'avoir offert une vie nouvelle pleine d'espérance. Parce qu'avant, c'était triste ma vie. » Vous arrive-t-il, frères et sœurs, d'exprimer votre gratitude, votre reconnaissance à Dieu? Vous le savez, frères et sœurs, cette vie nouvelle n'est possible qu'en Jésus-Christ. Christ, c'était Dieu, le Fils, qui s'est chargé de nos péchés pour les porter à la croix. Oui, il a fallu que le Christ, nous dit Pierre au verset 19 et 20, tel un agneau innocent et sans défaut, versa son sang précieux pour nous. Ce sacrifice de Jésus non seulement nous ouvre à une vie nouvelle, mais il nous sauve de la mort éternelle. C'est pas rien. Ai-je l'assurance de mon salut? Avez-vous l'assurance de votre salut? Oui. Dieu le Père, nous dit l'apôtre Pierre, avait prévu le sacrifice de Jésus avant la création du monde. C'est dingue. Franchement, frères et sœurs, cette révélation nous interroge, nous fait réfléchir sur la puissance des pensées de Dieu qui sont bien au-dessus de nos pensées humaines. Dieu, nous dit Pierre, avait déjà choisi et prévu Jésus pour mourir sur la croix avant même la désobéissance d'Adam. Quelle puissance, quelle grandeur! C'est incroyable! Vous arrivez, vous, à prévoir des choses comme ça à l'avance? Non. Cette vie nouvelle, nous dit Pierre dans sa lettre, est fondée sur deux éléments. Le premier, c'est le grand amour de Dieu. Jean 3,16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Nous sommes, nous, saisis de ce grand amour de Dieu. Le vivons-nous? Est-ce que nous vivons ce grand amour donné par Jean? Et puis le deuxième, c'est la résurrection de Jésus. Si nous naissons à une vie nouvelle, c'est parce que nous sommes morts à une vie ancienne, celle du péché. Beaucoup ne croient pas et donc ne vivent pas cette vie nouvelle. Beaucoup ne croient pas plus à une vie après la mort. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Moi, ma sœur, elle me disait dernièrement, « Moi, je crois en Dieu. » Moi, je lui dis, « Ben, tant mieux, je suis content. » « Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Je crois qu'après la mort, c'est fini, c'est terminé. » Eh bien, en Corinthiens 15, verset 16, nous dit, et Paul pose la question, « Si les morts ne peuvent pas revivre, alors le Christ non plus n'est pas revenu à la vie, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort. » L'apôtre Pierre, lui, a été à maintes reprises le témoin privilégié de la résurrection de Jésus. Eh bien oui, il a vu le tombeau vide et la pierre roulée. Il était sur la montagne de Galilée où Jésus apparut aux 11 après sa mort. Il y était. La résurrection de Jésus n'est pas un mythe, mais une réalité. C'est la vérité. Les disciples pouvaient même s'accueillir les uns les autres en déclarant « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » La résurrection de Jésus, le premier ressuscité des morts, atteste de notre propre résurrection. Nous allons ressusciter. Le croyons-nous ? Amen. Amen. Pierre nous rappelle que non seulement Dieu nous a offert une espérance vivante en Jésus-Christ, mais encore, en tant que papa spirituel, puisqu'il nous a fait naître de nouveau, il nous a préparé, à nous ses enfants, un héritage céleste qui ne pourra ni se détruire, ni se salir, ni perdre de sa beauté, car il n'a pas été construit de main d'homme, mais par la volonté de Dieu le Père. Cet héritage se trouve dans les cieux et nous est réservé. Est-ce que ça, nous en avons conscience ? Est-ce que nous le croyons ? Pierre, lui, ne fait que rappeler la promesse qu'il a reçue de Jésus. Jean 14, versets 1 à 4. « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, eh bien je reviendrai. » Et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Notre place, frères et sœurs, est réservée dans le royaume des cieux. Nous passerons notre avenir éternel, notre éternité, dans la présence bénie de Jésus. Quelle grâce ! C'est une grâce infinie. Alors me direz-vous, c'est bien beau toutes ces promesses concernant notre avenir avec Dieu, mais aujourd'hui nous sommes dans le tourbillon de la vie, avec son lot d'épreuves, de souffrances, de tentations, que nous portons comme des boulets. Alors pourquoi, si Dieu nous aime et veut notre bonheur, eh bien traversons-nous de telles situations, de telles épreuves ? Et l'apôtre Pierre, qui a traversé lui maintes épreuves dans sa vie, nous donne une image très claire concernant les épreuves. Voilà ce qu'il écrit. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Il prend pour cela l'exemple très parlant de l'or qu'il faut purifier, qu'il faut laver de ses impuretés. Pour cela, on doit passer l'or au creuset, en le chauffant à très haute température dans une cuve, afin de le rendre liquide. Il est alors facile d'enlever les impuretés qui viennent en surface. L'épreuve est un feu qui teste la valeur réelle de notre foi, qui en révèle sa valeur, son authenticité. L'épreuve est le baromètre de la confiance que nous plaçons en Dieu. Vous savez, un athlète qui voudrait aller glaner une médaille aux Jeux Olympiques et puis qui ne se confronterait jamais à des adversaires. Mais comment pourrait-il juger de sa valeur, de la qualité de ses performances ? Il ne pourrait pas. Une vie spirituelle dans laquelle notre foi ne serait jamais éprouvée serait une vie sans repère, sans évaluation de qui nous sommes vraiment. Chers amis, l'épreuve, bien que douloureuse, bien que triste, épuisante, et tout ce que vous voulez, est utile à notre croissance, est voulue et permise par Dieu. Alors face à l'épreuve, comment est-ce que nous allons nous comporter ? Pensons-nous, et c'est des fois ce qui arrive, et moi ça m'arrive, qu'ai-je fait de mal pour que Dieu me punisse ainsi ? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu me rejette-t-il? Bien, face à l'épreuve, il est important de faire preuve de patience et de persévérance, mais aussi de courage et de confiance. Frères, sœurs, ce sont les ingrédients nécessaires pour passer l'épreuve le mieux possible. Alors, la patience et la persévérance. Eh bien, au verset 11 du chapitre 2 de sa lettre, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous, chrétiens, sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Puisque notre héritage est dans les cieux, nos attaches ne sont plus sur cette terre seulement. Nous ne sommes que de passage. Notre véritable patrie se trouve dans les cieux. Alors, cette pensée nous aide à aborder l'épreuve avec hauteur, à être patient et à persévérer dans l'attente et dans la délivrance. C'est vrai, à partir du moment où on se dit, ben c'est vrai, on est sur cette terre que de passage, on ne s'attache plus aux choses terrestres. Et puis, courage et confiance, au verset 5 du chapitre 1 de sa première lettre, eh bien, l'apôtre Pierre nous confirme qu'au milieu même de l'épreuve, Dieu est présent. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. Hein, pendant l'épreuve, Dieu nous lâche la main, mais veille sur nous en nous entourant de ses bras d'amour. Moi, je me rappelle, Solène, quand elle faisait du vélo la première fois, elle n'arrêtait pas de tomber. Mais je la laissais tomber, parce qu'il fallait qu'elle apprenne. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, elle est partie toute seule, et puis elle a pu prendre son vélo. Mais j'étais là, j'étais présent. Quand Dieu nous lâche la main, nous ressentons un profond sentiment d'abandon. Mais c'est ce sentiment qu'a ressenti Jésus sur la croix, lorsqu'il s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frères, sœurs, ressentons-nous cet abandon de Dieu dans l'épreuve? Est-ce que nous le ressentons? L'apôtre Pierre nous assure que Dieu nous garde et que même si nous ne le voyons pas, ne le ressentons pas, nous devons lui faire confiance par la foi. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là dans l'épreuve. Je sais que tu ne m'abandonnes pas. En appuyant notre confiance sur les promesses bibliques de Dieu, et je vais vous donner une promesse biblique de Dieu, retenez-la pour vous, pour votre vie. C'est Ésaïe 49, versets 14 à 16. Moi, quand je suis dans l'épreuve, voilà, je m'appuie là-dessus. Quand Jérusalem dit « L'Éternel m'a abandonné », oui, le Seigneur m'a complètement oublié. Je lui réponds, et c'est Dieu qui répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même, si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à toi. Frères, sœurs, avons-nous cette confiance en Dieu dans l'épreuve? Et je souhaiterais conclure ce premier des trois volets de l'épître de Pierre par ce verset 6 du chapitre 1. Voilà tout ce que j'ai dit dans ce premier message. Voilà ce qui fait votre joie. Frères et sœurs, chers amis, toutes ces promesses de vie nouvelle, d'héritage, de soutien dans l'épreuve, d'amour puissant, sont pour nous qui croyons et nous appartiennent par la foi. Voilà ce qui fait notre joie ou ce qui devrait faire notre joie. Et je vais laisser Rebecca nous lire le psaume 16.
Donc, psaume 16, les versets 6 à 11. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans les séjours des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi.
4. Alors c'est vrai qu'après nous avoir exhortés à vivre une existence nouvelle en Jésus-Christ, l'apôtre Pierre met à présent l'accent sur l'importance que revêt la parole de Dieu, la Bible. En 1 Pierre 1,23, il affirme même que nous sommes nés à cette vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Et par ce verset, Pierre montre que la parole de Dieu est vivante, elle est créatrice et surtout habitée par le même Saint-Esprit qui nous fait naître d'en haut. Jean 14, 26, « Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Frères, sœurs, vous avez bien entendu, et c'est hyper important, le même Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau, qui habite en nous, est le même Saint-Esprit qui inspire la Bible, la parole vivante de Dieu. C'est le même. Alors pourquoi est-ce important? Parce que cela explique que l'on ne peut pas comprendre la Bible si l'on n'est pas né de nouveau, né de l'Esprit. Et c'est marqué dans la Bible, ça. 1 Corinthiens 2, verset 14, dit « L'homme sans Dieu n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. » Par contre, l'être spirituellement né d'en haut parle exactement le même langage que la Bible. Le même. 1 Corinthiens 2,15, « L'homme spirituel, celui qui est né de l'Esprit, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Et ça, c'est important. Or, nous, chrétiens, nés de nouveau, nous avons la pensée du Christ. Frères, sœurs, aucun chrétien né de nouveau et qui a la pensée du Seigneur n'a logiquement aucune excuse de ne pas lire la Bible. Parce qu'il la comprend, parce qu'elle est pour lui. Vous le savez, le Saint-Esprit qui nous a fait naître à une existence nouvelle a fait de nous des bébés spirituels. C'est une image de la vie spirituelle. Or, une nouvelle fois, Pierre nous exhorte. Il nous exhorte toutes et tous à grandir, à croître spirituellement. Comme nous croissons charnellement, humainement, il nous faut de même grandir spirituellement. C'est nécessaire. Jugez-en vous-même. Un bébé, par exemple, qui va faire 4 kilos et puis 55 centimètres, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Ouais, c'est un beau bébé !» Il est délicieux. Mais que dirait-on d'un adolescent de 15 ans qui pèserait 4 kilos et mesurerait 55 centimètres? On dirait « Il y a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui ne va pas. » On dirait « Il a un problème. » Alors vous voyez, frères et sœurs, l'importance de la croissance spirituelle. L'apôtre Pierre affirme clairement que cette croissance est directement liée à la parole de Dieu qui pénètre en nous. Il écrit, 1 Pierre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Comme on donne un biberon de lait à un bébé qui pleure parce qu'il a faim, nous devons, dit Pierre, désirer la nourriture spirituelle qui calme notre soif spirituelle et nous fait grandir. Dans son épître, l'apôtre Pierre apporte deux informations capitales sur la parole. La première, il la qualifie de nourriture. C'est le lait de la parole. Et puis la deuxième, il insiste sur sa pureté, le lait pur de la Bible, de la parole. Ces deux éléments seront essentiels à une bonne croissance spirituelle. Alors premièrement, le lait de la parole, en tant que nourriture spirituelle, l'apôtre Pierre écrit « Afin que le lait pur de la parole vous fasse grandir en vue du salut. » Pierre ne fait que nous rappeler les paroles de Jésus. Hein, vous vous rappelez de Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, toute, hein, ça veut dire toute la Bible, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'un chrétien né de nouveau lit et médite la Bible, il se nourrit de paroles spirituelles qui le remplissent de connaissances, mais pas que de connaissances. Dans sa belle épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. En désirant cette parole de Dieu, non seulement le chrétien se nourrit spirituellement, mais il fait naître en lui la foi et la fait grandir. Des fois on dit, mais on voudrait avoir plus de foi. Mais lisons la parole. Et puis deuxièmement, le lait pur de la parole. Ça c'est important. En tant que vérité spirituelle, en rajoutant pur, Pierre nous rappelle que toute nourriture spirituelle ou dite spirituelle, non seulement ne nourrit pas, mais peut être dangereuse à notre équilibre spirituel. Effectivement, la parole de Dieu peut être soit diluée, soit empoisonnée. Elle peut être falsifiée par des opinions humaines ou même des intentions sataniques. Et la Bible en donne un exemple. Matthieu 4, verset 6. Satan dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. » En gros, il lui dit, « Suicide-toi. » Car il est écrit dans la parole, « Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Et là, Satan cite le psaume 91. Alors s'il cite ce verset biblique, Satan en détourne totalement le sens, en détourne totalement l'esprit. Donc faisons attention à ce que nous entendons, ce que nous lisons, ne soit pas détourné de son sens, de son esprit. Frères, sœurs, pour éviter ces impuretés bibliques, les fausses doctrines, les pensées philosophiques, les falsifications sataniques, deux grands principes sont à respecter. Se nourrir de la parole, mais la vraie parole, la vraie, celle qui est vendue à Équilibre, mais toute la parole, pas des morceaux de Bible, pas des petits passages de Bible qu'on lit comme ça et qui peuvent être détournés complètement de leur sens. Parfois, on écoute des messages bibliques sur Internet dont on ne connaît pas vraiment qui sont les orateurs. Soyons aussi prudents. Et puis le deuxième, c'est avoir du discernement. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le discernement. Le discernement, c'est acquérir un jugement clair pour savoir ce qui est vrai et faux. Et ça, il faut demander le discernement à Dieu. Frères, sœurs, ne nous privons pas du lait de la parole. Nourrissons-nous chaque jour spirituellement par une lecture biblique suivie et pure. Même si cela est pour nous une lutte, un combat, grandir spirituellement est à ce prix. Prendre du temps pour lire, étudier, méditer chaque jour la parole de Dieu, même un court instant. Le psaume 119, versets 147 et 148 dit « Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi en ta parole. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. » À présent, je vais laisser la parole à Wardia. Si on a un micro. Voilà, nous allons prendre la dernière partie donc, des trois éléments que j'ai voulu faire ressortir dans 1 Pierre 1, 2. Alors, lors de sa présence sur Terre, là, le troisième, c'est l'Église multitude de pierres vivantes. Donc, on va parler de nous aussi. Lors de sa présence sur terre, alors qu'il était au milieu de ses disciples, Jésus leur demanda « Qui dit-on que je suis ?» Alors certains dirent « Tu es Élie, tu es Jérémie, tu es un prophète. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Avant d'ajouter, « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, j'édifierai mon Église. » Vous voyez dans quel contexte ceci a été écrit. Frères, sœurs, je ne suis pas certain qu'à cet instant, Pierre ait compris l'importance de l'événement que Jésus lui annonçait, car il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Après l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, le même apôtre Pierre prêchait ainsi dans Acte 2. Il disait « Recevez le salut et séparez-vous de cette génération dévoyée. » Alors celles et ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en commun les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Dès lors, pour Pierre, la notion d'Église venait de prendre son sens et surtout venait de prendre forme. L'Église naissait. Par définition, l'Église, c'est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action génératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Cette relation vitale entre les chrétiens nés de nouveau et Jésus-Christ est au centre du deuxième chapitre de l'épître de Pierre. Alors dans 1 Pierre 2,4, il est écrit « Il est la pierre vivante, Jésus, que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie à cause de sa grande valeur. » Christ ressuscité est la pierre vivante, cette pierre sur laquelle Jésus avait prévu de construire son Église. Pierre nous rappelle que si les hommes ont rejeté Jésus en le faisant mourir à la croix, Dieu, lui, l'a choisi en le ressuscitant pour construire sur lui son Église. Si Paul, dans Éphésiens 5, 23, insiste plus particulièrement sur Jésus en tant que chef, tête de l'Église, c'est-à-dire berger du troupeau, Pierre, lui, le désigne clairement comme la pierre d'angle, le roc sur lequel Dieu souhaitait bâtir son Église. En réalité, la pierre d'angle de la fondation est la première mise en place. Elle est placée à l'angle où se rencontrent deux murs et les maintient ensemble. Elle doit être bien carrée et solide. Au sens figuré, Christ est la pierre angulaire de l'édifice. Avons-nous cette vision d'une Église bâtie sur Christ et non sur les hommes ? Moi, j'ai un privilège, c'est que j'ai vu construire cette Église. Et j'étais là le jour où ils ont mis la première pierre, la pierre d'angle, avec un message à l'intérieur. Donc, il y a une pierre ici, qui est à l'angle, là-bas, et qui est la pierre d'angle de l'Église. Eh bien, spirituellement, Jésus, c'est la pierre d'angle de l'Église. Pierre s'adresse à présent à tous les chrétiens régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau. De par leur régénération, ils sont devenus eux-mêmes des pierres vivantes à l'image de Jésus. Romains 8, 29, « Ceux que Dieu a connus d'avance, c'est-à-dire nous, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné, Jésus-Christ, de nombreux frères. » Voilà pourquoi Pierre exhorte chaque chrétienne, chaque chrétien à s'approcher de Jésus, à s'appuyer sur lui pour devenir eux-mêmes des pierres vivantes à l'image du Maître. Chaque chrétienne, chaque chrétien devenu pierre vivante reçoit de Jésus par le Saint-Esprit une part de sa connaissance, une part de sa puissance, une part des dons. C'est vrai, on ne peut pas tout recevoir. Moi, j'ai reçu certains dons, mais je n'ai pas tout reçu. Et d'autres ont reçu d'autres choses que je n'ai pas reçues. Le but de chaque pierre vivante est de mettre au service des autres pierres tout ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit. Ce qui fait parfois souci dans l'Église, c'est de penser que nos différences nous divisent. On entend dire parfois, je ne comprends pas, nous avons tous reçu le même Saint-Esprit et nous avons des pensées et des visions différentes. Ça paraît suspect. Eh bien, frères et sœurs, puisque nous avons tous accepté la même confession de foi de l'Église, nos différences ne touchent pas sur l'essentiel. Voilà pourquoi, au lieu d'être un handicap, nos différences constituent au contraire une richesse. Une richesse pour nous, pour l'Église, pour Dieu. Comme pour un puzzle où chaque pièce s'emboîte, complète l'autre pour offrir une belle image, chaque pierre vivante va s'associer aux autres pour édifier, pour construire l'Église. En réalité, en nous rappelant que nous sommes des pierres vivantes, l'apôtre Pierre illustre ce qu'avait déjà écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 19. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Alors vous le voyez, chaque pierre vivante, en tant que temple de Dieu, a une responsabilité individuelle, personnelle devant Dieu. C'est ce qu'a rappelé Wardia tout à l'heure. Quand on lit la Bible, on a une relation personnelle avec Dieu. Quand on prie, on a une relation personnelle avec Dieu. Pierre exhorte chaque pierre vivante à s'approcher de lui, à être fondé sur Jésus, chacun de nous. 1 Corinthiens 3,11, « Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. » Le fondement de ma vie chrétienne, le fondement de votre vie chrétienne, les fondations de nos vies, sont-ils bien en Jésus-Christ ? C'est la question qu'il faut se poser. Notre responsabilité individuelle en tant que pierre vivante est de l'honorer dans le quotidien de nos vies. Dieu attend en premier de nous que nous lui obéissions, que nous fassions fructifier notre salut dans un esprit d'humilité. Philippiens 2, versets 12 et 13. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites fructifier votre salut dans un esprit de respect et d'humilité, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Alors, lorsque nous sommes une pierre vivante, obéissante, et c'est très important, eh bien, ce n'est plus nous qui agissons par nos propres pensées, notre propre vouloir, nos propres forces, mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous orienter vers les œuvres que Dieu attend de nous. Voilà. Si nous forçons le Saint-Esprit, eh ben, ce n'est pas bon. Il faut que ce soit lui qui provoque en nous le vouloir et le faire. Bien souvent, nous ne faisons pas fructifier notre salut parce que nous ne sommes pas à l'écoute de ce que Dieu nous a dit et attend par le Saint-Esprit qui est en nous. Il nous arrive parfois de faire tant d'activités que Dieu ne nous demande pas toujours de faire, que nous n'avons plus ni le temps ni la force de faire celles qu'il nous demande. Par exemple, de prier, de lire et méditer la parole, visiter, accueillir. Des fois, on dit « Ouais, mais j'ai tellement de boulot, tellement de choses à faire, etc. J'arrive plus à lire ma parole, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à rien faire de spirituel. » Replaçons les priorités. Vous le voyez, chaque pierre vivante est une entité responsable individuellement devant Dieu. Nous serons responsables individuellement, chacun devant Dieu. Alors, on est en droit de s'interroger sur l'utilité réelle de l'Église. Si la pierre vivante peut travailler personnellement sa relation avec Dieu, j'entends souvent dire « je sers aussi bien Dieu chez moi qu'à l'Église ». Je regarde le culte à la télé, je lis ma Bible, je prie dans ma chambre. Je n'ai pas besoin vraiment de l'Église. Quoi ça sert ? Eh bien, frères et sœurs, à cela, je réponds clairement par deux choses. Premièrement, si l'Église n'était pas utile, Jésus ne l'aurait pas créée au prix même de sa vie. Et puis deuxièmement, Pierre, lui, nous rappelle à la fois son utilité et son importance. 1 Pierre 1, verset 5, il dit « Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. » En disant « Édifiez-vous », Pierre nous exhorte à construire ensemble, à bâtir un temple, une maison spirituelle à la gloire de Dieu, l'Église. Vous pourrez lire 1 Corinthiens 3, 16. Comme le roi Salomon, lui, a construit un temple magnifique à la gloire de Dieu, avec de l'or, avec de l'argent, des pierres de taille, des bois précieux, nous sommes tous et toutes appelés à construire collectivement cette fois une Église qui honore notre Dieu. Quelle œuvre accomplissons-nous dans l'Église ? Paul écrit, 1 Corinthiens 3, 12, « On peut bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses, ou alors du bois, de la paille ou du chaume. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun. Frères, sœurs, en qualité de pierre vivante, construisons-nous l'Église de Dieu et avec quels matériaux la construisons-nous ? Dans l'Ancien Testament, on construisait le temple avec des matériaux nobles et les prêtres offraient des sacrifices à Dieu au nom du peuple d'Israël. Car ils étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, grâce à Christ, nous n'avons plus besoin d'intermédiaires pour parvenir à Dieu. 1 Timothée 2, 5 dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Voilà le médiateur. Aujourd'hui, nous dit l'apôtre Pierre, nous constituons un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Nous sommes tous consacrés à Dieu. Vous êtes une race élue. Est-ce qu'on en prend conscience ? Une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Frères, sœurs, nous sommes le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, mais aussi des prêtres sacrificateurs qui ont accès au Père par Jésus-Christ. Pierre nous rappelle que nous sommes des prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Le premier sacrifice spirituel que Dieu attend de son peuple, de chaque pierre vivante, c'est celui d'Abraham. Ça va peut-être vous surprendre, mais Genèse 22 dit « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et tu me l'offriras en sacrifice. » Alors bien évidemment, c'est vrai, hein, Dieu ne demande pas à son Église de lui sacrifier ses enfants, ce serait complètement idiot. Paul, lui, nous montre le sacrifice que Dieu attend et agrée. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous invite, frères, à offrir, à cause de cette immense bonté de Dieu, votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » En réalité, ce que Dieu attend de nous et veut de nous, c'est nous. Voilà ce qu'il attend, Dieu. Il attend qu'on lui offre chacun nous-mêmes, que nous lui offrions notre corps et notre vie. Seigneur, je t'offre mon cœur tout entier. Je ne veux pas être dirigé par mes propres pensées et celles du monde, mais Seigneur, par tes propres pensées à toi. Alors, les pierres vivantes n'ont pas qu'une responsabilité individuelle, elles ont aussi une responsabilité collective, celle de bâtir, d'édifier l'Église sur le fondement que constitue Jésus-Christ. Pour cela, elles vont s'unir pour construire le temple spirituel que Dieu attend. Dans Apocalypse 2, 19, Jésus, s'adressant à l'ange de l'Église de Thyatire, dit « Je connais tes œuvres ». Je connais ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. On peut légitimement penser que ces ingrédients sont tous les matériaux que Dieu attend que nous utilisions pour la construction du temple spirituel qu'est l'Église. Construire avec de l'or, c'est probablement utiliser tout ce que Dieu nous appelle à faire, c'est-à-dire les œuvres faites fidèlement dans le cadre du service dans l'Église, avec persévérance et surtout avec amour. Et je pense à toutes celles et ceux qui, depuis des années, persévèrent sans se décourager dans le service, qui bien souvent ne reçoivent que peu d'encouragement, peu de remerciements, mais le font par amour pour Dieu et pour l'Église. Dans sa très belle épître aux Corinthiens, chapitre 13, Paul nous rappelle que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour qui ne périront jamais. Mais nous dit Paul, la plus grande des trois, c'est quoi ? C'est l'amour. C'est l'amour. Pierre, au chapitre 1 et verset 22, écrit « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Frères, sœurs, les œuvres, les messages inspirés, le parler en langue cesseront, mais l'amour, lui, ne disparaîtra jamais. Vous voyez, moi-même, je peux prier nuit et jour, je peux jeûner 40 jours et 40 nuits, faire des prédications géniales. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien et ne vaut rien aux yeux de Dieu. L'amour, c'est essentiel, c'est indispensable. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous rappelle deux choses. Que l'amour vient de Dieu, car Dieu est amour. Donc c'est notre relation étroite, sincère, personnelle avec Dieu qui nous remplit d'amour. Ce n'est pas nous qui produisons l'amour, c'est Dieu. Et puis deuxièmement, voici en quoi consiste l'amour. 1:10. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Le modèle divin de l'amour, c'est le sacrifice. C'est ça, c'est Jésus s'est sacrifié pour nous, nous devons aussi nous sacrifier. L'Église s'édifie sur l'amour, est unie aussi par l'amour, un lien d'amour vertical entre Dieu et les pierres vivantes que nous sommes, mais l'Église est aussi unie par ce lien d'amour horizontal, vous voyez, vertical entre Dieu et les êtres humains, et puis horizontal pour que nous nous aimions les uns les autres. En nous invitant à nous aimer les uns les autres, l'apôtre Pierre, l'apôtre de Jésus, nous rappelle le message du Seigneur pour son Église. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Mais c'est aussi un témoignage que l'Église doit rendre au monde. Au verset 35 de Jean 13, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est l'amour que produit l'Église qui va toucher le monde incroyant. Frères, sœurs, veillons à ce que cet amour habite toujours parmi nous afin d'éviter le reproche de Jésus fait à l'Église d'Éphèse. Et je vais terminer là-dessus. Apocalypse 2, 4. « J'ai cependant un reproche à te faire, Église d'Éphèse. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change d'attitude et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas d'attitude. » Frères et sœurs, veillons sur notre premier amour et travaillons à le fortifier et à l'exercer en particulier dans l'Église. Et j'aimerais que, si Jean-Haut a un moment, de prendre le chant « Ton amour, ta puissance ».